Ben, ma vocation d'horloger me vient de mon grand-père, qui m'apprenait très tendrement, très doucement, l'amour des beaux mécanismes, des engrenages calés à la loupe, des justes ressorts. La difficulté du ressort circulaire, disait-il, contrairement au poids vertical, est qu'il déploie plus d'énergie au début qu'à la fin de la décontraction. Il faut donc compenser par des limitations subtiles son extension sans l'user outre mesure. Ma ferveur horlogère me prédestinait à l'étude de la musique, où il est aussi question de ressorts et de contrepoids, de ressorts archaïques, de pulsations et de cliquetis. Et donc, voilà le but ultime de cette digression, je ne mens pas à Sarah, pas vraiment quand je lui dis que j'avais la vocation de la musicologie, qui est à la musique ce que l'horlogerie est au temps. Mutatis mutandis. Ah, docteur Mann, je vous vois froncer les sourcils, vous n'avez jamais été poète. Vous avez écrit le roman de la musique, Faustus. Tout le monde s'accorde là-dessus, sauf ce pauvre Schoenberg, qui, d'après ce que l'on dit, en avait été fort jaloux. Ah, ces musiciens, jamais contents. Des égaux disproportionnés. Vous dites que Schoenberg est Nietzsche plus Mahler, un génie inimitable, et il se plaint. Il se plaint que vous ne l'appeliez pas Arnold Schoenberg, mais Adrian Lefferkühn, sans doute. Peut-être aurait-il été très heureux que vous lui consacriez 600 pages de roman, 4 ans de votre génie, en l'appelant par son nom, Schoenberg. Même si, en fin de compte, ce n'était pas lui, mais un Nietzsche, lecteur d'Adorno, père d'un enfant mort. Un Nietzsche, syphilitique, bien sûr, comme Schubert, comme Hugo Wolf. Docteur Mann, sans vouloir vous vexer, cette histoire de bordel me semble à rien exagérée. Voyez mon cas. On peut attraper des affections tout à fait exotiques, sans être obligé de tomber amoureux d'une prostituée déclassée à cause d'une maladie professionnelle. Quelle histoire terrifiante. Cet homme qui suit l'objet de son amour au-delà du bordel et couche avec elle tout en sachant qu'il va contracter sa terrible bactérie. C'est peut-être pour cela que Schoenberg vous en a voulu d'ailleurs. Cette façon de prétendre sans en avoir l'air qu'il était syphilitique. Imaginez sa vie sexuelle après l'apparition du docteur Faustus, le pauvre. Les doutes de ses partenaires. Bien sûr, j'exagère et personne n'a jamais pensé à cela. Pour vous, la maladie s'opposait à la santé nazie. Revendiquer le corps et l'esprit malade, c'est affronter directement ceux qui ont décidé d'assassiner tous les aliénés dans les premières chambres à gaz. Vous avez raison. Vous auriez peut-être pu choisir une autre affection, la tuberculose par exemple. Excusez-moi, pardon, évidemment c'était impossible. Et la tuberculose, même si vous n'aviez pas écrit la montagne magique, suppose l'isolement de la société, le regroupement des malades entre eux dans de glorieux sanatoriums. Alors que la syphilis est une malédiction que l'on garde pour soi, une de ces maladies de solitude qui vous rongent dans l'intimité. Des tuberculeux et des syphilitiques. Voilà l'histoire de l'art en Europe. Le public, le social, la tuberculose, ou l'intime, le honteux, la syphilis. Plutôt que dionysiaque ou apollinien, je propose ces deux catégories pour l'art européen. Rimbaud, tuberculeux. Nerval, syphilitique. Van Gogh, syphilitique. Gauguin, tuberculeux. Rückert, syphilitique. Goethe, un grand tuberculeux, voyons. Michel-Ange, atrocement tuberculeux. Brahms, tuberculeux. Proust, syphilitique. Picasso, tuberculeux. S, devient tuberculeux après des débuts syphilitiques. Roth, syphilitique. Les Autrichiens en général sont syphilitiques, sauf Zweig, qui est bien sûr le modèle du tuberculeux. Regardez Bernhardt. Absolument.